en compagnie, parlez-nous d'un livre qui vous tient à cœur.
Mon nom est Bertrand Saint-Cernin. J'appartiens à l'Académie des sciences morales et politiques. Je fais partie de la section de philosophie et je vais vous parler d'un roman de Joseph Conrad, Lord Jim. En octobre 1950, j'atterris en Hippocagne dans la classe de Michel Alexandre, sondeur incomparable de la perception, fils de banquier, ami d'Alain, qui était atteint d'une maladie qui le faisait boiter et qui, outre la lecture de Platon et de Descartes, nous recommanda une dizaine de livres, parmi lesquels « Lord Jim » de Joseph Conrad. Fils d'un pasteur et, comme dit Conrad, l'un de nous, Jim a fait une école de navigation pour devenir officier, puis capitaine de la marine marchande. Mais un beau jour, il saute du Patna, un navire qui emmène des pèlerins à la Mecque. Il ne parvient pas à comprendre ce qui lui est arrivé, ni à attribuer sa défection à la peur. Il est condamné à Aden et ensuite part vers l'Extrême-Orient. Partout, on le crédite d'un courage hors du commun, mais lui se sent affligé d'une faille impossible à combler et plus encore à oublier. Il fuit inlassablement, s'éprend d'une jeune femme de couleur, Jewel, le bijou, sans parvenir à accepter son amour et finit exécuté par le père de son meilleur ami qu'il n'est pas parvenu à sauver. La première question que pose ce livre, c'est comment découvrir son nom propre. Selon Leibniz, Dieu crée des êtres uniques. C'est cette singularité, érigée en principe universel, que Conrad dépeint. Ces héros ne sont pas des types, mais des individus qui, pour la plupart, demeurent ignorants d'eux-mêmes. En même temps, chaque personnage de Conrad est en quête de son nom propre. Dans la préface du Nègre du Narcisse, Conrad distingue radicalement la voix de l'artiste des voix de l'homme de science et du philosophe. Il entend s'en tenir à la première et ne jamais empiéter sur les deux autres. Pourquoi, dès lors, les philosophes jugent-ils que la lecture de Conrad peut les aider à former leurs élèves et à éclairer leurs recherches? À partir de Platon, bien des philosophes subissent l'attrait de la littérature. Ils recourent aux récits, mutos, pour peindre le drame de l'existence. Aristote, dans la Poétique, en 1451b-5-6, justifie cette attitude en disant que l'histoire ne raconte que ce qui a eu lieu, alors que l'art dit ce qui pourrait avoir lieu. De ce fait, ajoute Aristote, la poésie est plus philosophique que l'histoire. Trois raisons principales expliquent l'intérêt des philosophes pour la littérature. D'abord, une énigme. Pourquoi la fiction fait-elle pénétrer plus avant que l'histoire dans la vérité des êtres et des situations? Ensuite, un constat. Le romancier rejoint l'observation de Platon dans le Timée en 34c, nous sommes faits, dit Platon, pour une grande part, d'éléments fortuits. Enfin, le roman possède un cadre métaphysique. Ainsi, les récits de Conrad restituent les processus par lesquels des hommes et des femmes se sauvent ou se perdent. Ils nous font voir la palette complète de leurs victoires et de leurs échecs, ils donnent de l'étirement du temps comme de la soudaineté des instants décisifs, une vision que la philosophie a du mal à restituer. Les épreuves, en effet, tombent sur les êtres à l'occasion de rencontres fortuites. Or, elles ne sont pas toujours proportionnées à leur force. Parfois, elles les excèdent ou submergent leur imagination au point qu'ils se sentent incapables de lutter. Ils font alors la découverte amère de ce que saint Augustin appelle les causas deficientes, les causes déficientes. Or, l'être défait a toujours un doute. A-t-il été victime de forces irrésistibles ou seulement le complice coupable de forces qu'il pouvait vaincre? Jim doit vivre avec ce doute d'avoir été un traître. A-t-il été libre de sauter? Aurait-il pu éviter ce fait dont, quand il se replace avant qu'il se soit produit, il ne sait pas s'il a été ou non fatal? Pourquoi? Tout d'abord parce que Jim, nous l'avons dit, est l'un de nous. Ce qui lui arrive nous concerne tous. Or, son destin ne résulte pas de l'action de forces occultes. Il fait partie du réel, au même titre que l'eau, la terre, l'air ou le feu. Méditer sur le destin, c'est donc réfléchir sur ce cinquième élément de l'univers. Au début, Conrad prend le destin comme une entité matérielle, semblable à une paille dans le métal ou à une substance vénéneuse qui, même à dose infinitésimale, gâte la matière dont un être est fait. Ainsi, Jim, au lieu de respirer un air salubre, inhale un mélange nocif où entrent des rêves qui, loin de le vivifier, le stupéfient et l'assomment. À plusieurs reprises, Jim déclare que quand il a sauté du Patna, il n'a pas eu peur, mais qu'il n'était pas prêt et n'a pas eu le temps de réagir. Il ne garde aucun souvenir précis de l'instant où il a sauté. Il voit que ce qui s'est produit avant ou après, il se trompe sur l'appel qu'il croit lui être adressé par les trois déserteurs, appel qui en fait concerne Georges, le mécanicien. Il y a donc en lui une puissance qui falsifie les messages, fausse les sensations et produit comme un ordre irrésistible de sauter. Il aimerait croire que cette puissance maléfique n'est qu'une banale pulsion de peur. Or, il ne peut souscrire à cette explication rassurante. Lui, le fils préféré d'un vieux pasteur de campagne, n'a pas bénéficié de la grâce qui permettra au lieutenant français de remorquer avec sa canonnière le Patna jusqu'à Aden. Le lieutenant français, après avoir noté que la peur est toujours là, note une vérité simple, « Mais l'honneur, monsieur, l'honneur, c'est quelque chose qui existe, vraiment. » Cette idée, souvent exposée par les moralistes, rappelle le mot fameux prêté à Turenne au moment de livrer bataille, « Tu trembles, carcasse, mais tu tremblerais davantage si tu savais où je vais te mener. » Toutefois, à l'instant du saut, Jim n'a plus en lui cet habitacle secret qui, même quand le corps ou le psychisme vacille, permet encore d'agir. Déjà, à l'école de navigation, alors qu'il se rêve en héros, il manque la chaloupe qui part sauver un navire en détresse. Certaines des formules qu'emploie Conrad pour évoquer le destin contribue à produire la fausse impression que son univers est dominé par des forces occultes devant lesquelles ses héros auraient une religion fétichiste. En fait, Conrad suggère que les existences sont régies par des influences externes et internes que les individus ne parviennent pas à maîtriser, bien que, une fois analysées, ces influences ne soit pas incompréhensible. Conrad affirme que l'artiste a pour mission, je le cite, de rendre la plus grande forme de justice à l'univers visible en mettant en lumière la vérité diverse et une qui suspend tous ses aspects, qui sous-tend plutôt tous ces aspects. Pour cela, il faut dissoudre les fausses lumières que nous prétendons avoir sur notre sort et comprendre pourquoi, même quand nous connaissons les éléments constitutifs du destin, celui-ci reste opaque. Tout d'abord, les individus ont chez Conrad quelque chose d'invariant, que l'on peut appeler leur nature ou leur âme. Ces héros, surtout masculins, n'en ont pas l'intuition directe. Ils la découvrent à l'occasion d'épreuves qui ne viennent pas le plus souvent d'un seul coup. Elles s'annoncent par des signes légers que l'être testé ne reconnaît pas. L'illusion sur soi affecte tous les individus. Ils n'en sont pas responsables, mais ils ont le plus grand mal à s'en défaire, ce qui pèse sur leur destin. Conrad a exploré tous les tours que le hasard joue aux hommes, sans pour autant les exempter de la responsabilité de leur sort. Il prend les individus aux divers âges de la vie, les confronte à des situations variées, les suit pendant de longues périodes. Il distingue les gens heureux, eudaimones, qui ont un bon génie, eudaimon, et ont tiré un bon numéro, et les êtres qui supportent de lourdes épreuves. Comme Platon, il juge qu'une partie du malheur des hommes tient à leur difficulté à s'arracher à leurs fantasmes, comme Jim, qui malgré son courage physique subit un envoûtement. Dans La Rescousse, un des derniers livres de Conrad, Assim se fait la réflexion. On peut voir le visage des hommes, mais on ne peut voir leur destinée qui est écrite sur leur front. Comme si la démission ou la victoire se préparait de loin à l'insu de ceux qui les vivent. Ce qui accroît le caractère tragique de ce monde, c'est que les signes et la langue de l'amour ne sont pas les signes et la langue de l'action, d'où un risque permanent de malentendu. Tout serait simple si deux êtres qui s'aiment parvenaient ensemble et l'un par l'autre au même état d'accomplissement. Le tragique, selon Conrad, c'est qu'au plus, l'un des deux y accède, en général la femme, sur le mode de l'illumination fugitive et du sacrifice. Dans Victoire, la mort de Haste, ou celle du héros de Lord Jim, résulte d'une défection qui n'est pas de l'ordre de l'action, mais de l'ordre de l'amour. Jim se présente devant Doramin, le père de l'ami qu'il n'a pas su sauver de la mort. Il est là, stoïque, attendant le coup de pistolet du vieillard, et Conrad dit il s'éloigne d'une femme vivante pour célébrer ses cruelles épousailles avec un fantomatique idéal de conduite. Ce qui affecte les héros masculins de Conrad, ce n'est pas un défaut de courage ou de détermination, mais une difficulté secrète à regarder en face ce qui est, ce que les femmes savent faire. Le poids du destin résulte en eux d'un défaut d'attention.